Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? » Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du père ? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. » Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. Acclamons la parole du Seigneur. Une fois, alors que je faisais ma marche, je passais devant une maison et j'ai dû entendre une conversation que je ne voulais pas entendre, mais c'est venu dans mes oreilles parce que c'était à l'extérieur. Alors c'était comme si c'était un garçon, un jeune enfant avec son père, et le jeune enfant semblait faire des reproches à son père. En fait, il lui disait, « Papa, tu l'avais promis, tu l'avais promis. Maintenant, il faut le réaliser. Tu l'avais promis, tu me l'avais dit. » Alors le petit était choqué parce que certainement que son père lui avait dit oui, alors là il était en train de faire non. Alors certainement que l'enfant voulait voir la cohérence dans ce que le père avait dit et puis l'acte que le père posait. Mais en fait, en réfléchissant sur l'évangile d'aujourd'hui, je me suis dit peut-être qu'il faudrait que nous nous posions la question nous-mêmes pour savoir quelle est notre attitude en face du Père, en face de Dieu le Père, quand il nous invite à faire sa volonté, quand il nous invite à aller travailler à la vigne. Comment est-ce que nous répondons? Est-ce que c'est un oui qui devient non? Ou c'est un non qui persiste dans le non? Quelle est notre attitude? Voyez-vous, ça c'est la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui. Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est voir la cohérence entre notre foi et notre existence et notre vie. Maintenant, quand on veut réfléchir de plus près, je vous propose de contempler d'abord Jésus lui-même, comment il agit. Et sa figure réjaillit d'une manière extraordinaire à partir de la deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de l'épître de Paul aux Philippiens. Dans ce texte-là, si vous faites attention, il ne s'agit pas du tout des paroles de Jésus. Il ne s'agit pas du tout de son enseignement. Il ne s'agit pas du tout de ce qu'il a fait, mais il s'agit de ce qu'il a accompli, de ce qu'il a réalisé dans sa vie. Ce sont des actes, il s'agit des actes et non des paroles. Qu'est-ce que Paul dit? Eh bien, Paul nous rappelle que Jésus, durant toute sa vie, a été une personne pour les autres. Que Jésus, durant toute sa vie, il était à la disposition des autres. Que durant toute la vie de notre Seigneur, c'est l'intérêt des autres qu'il cherchait. Voilà pourquoi il meurt sur la croix pour les autres. Voilà pourquoi il donne sa vie pour les autres. Voilà pourquoi il acceptait de quitter le ciel, de venir sur la terre. C'est pour notre rédemption, pour nous relever dans notre vie. Donc, dans la vie de notre Seigneur, c'est un oui de conséquence. C'est un oui qui se concrétise dans les faits. D'ailleurs, Paul, dans un autre texte parlant de Jésus, il dit que Jésus, durant toute sa vie, a toujours été oui. Il n'a jamais été oui, mais non, toujours oui, durant toute sa vie. Alors, comme Jésus est notre modèle, nous sommes invités, vous et moi, à le suivre, à voir comment nous devons garder la cohérence entre la parole que nous disons et les actes que nous posons. Certainement qu'il faudrait regarder dans le tréfonds de nous-mêmes et reconnaître que comme être humain, souvent nous disons oui et nous faisons non, de plusieurs manières. Tu peux sourire à quelqu'un, entre-temps tu le maudis à l'intérieur. On peut donc faire de la façade, on peut donc être hypocrite et présenter un autre visage et penser autrement. Alors dans notre cœur, vous et moi, parfois il y a l'inconstance, il y a la duplicité dans le cœur humain. Alors aujourd'hui le Seigneur est en train de nous inviter à nous améliorer, à être conséquents. Quand on réfléchit encore davantage, on regarde les deux paraboles de deux fils. Il me semble que la conclusion finalement, c'est de dire que ce qui compte réellement, ce n'est pas la parole, mais ce qui se passe dans le cœur de chacun et de chacune. Regardez dans le cœur du premier enfant. Veux-tu travailler à la vigne? Non. Dans son cœur, il y a un retournement. Peut-être que j'étais difficile envers mon père, peut-être que j'ai mal répondu, non, je veux aller travailler à la vigne. Repentance, repentir, conversion à l'intérieur. Le deuxième enfant, oui, Seigneur, je vais y aller. Qu'est-ce qui se passe dans son cœur? Oh, papa exagère toujours, moi je ne veux pas y aller. Dans le cœur. Alors ce qui est important, c'est le mouvement intérieur, le mouvement du cœur, le retournement intérieur qui se concrétise dans des actes concrets. Voilà l'important. L'important finalement, ce n'est pas de partir, c'est d'arriver. Voyez-vous. Alors, quand nous regardons de plus près notre Seigneur et que nous voulons l'imiter, regardez l'exemple qu'il dit. Les prostituées et les pécheurs vous précèdent dans le royaume de Dieu. Eh bien, ce n'est pas parce qu'ils sont prostituées qui vous précèdent, ce n'est pas parce qu'ils sont pécheurs qui vous précèdent, mais parce que, dit-il, les prostituées et les pécheurs, en entendant la parole, l'enseignement de Jean-Baptiste, se sont convertis. Ils ont accepté de changer leur itinéraire, de changer leur vie et de prendre une orientation nouvelle. Voilà pourquoi ils deviennent nos modèles. Donc, si nous voulons suivre le modèle qui nous est présenté aujourd'hui, les prostituées et les pécheurs, c'est parce qu'ils se sont convertis. Donc, vous et moi, nous sommes appelés à vivre une conversion, un repentir, un changement intérieur, changement de cœur. Voyez-vous, le terme convertir, c'est quoi? C'est faire demi-tour. Je suis dans cette direction, hop, je change. Donc, je change d'orientation, je change ma manière de vivre, je change ma manière de penser. C'est un changement radical. Tu changes complètement ta perspective, ta manière de voir. C'est ça la conversion. Alors nous autres là, ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est nous convertir, essayer de faire comme Jésus, être cohérent dans notre vie. Quand nous donnons notre parole, eh bien que nous soyons des hommes et des femmes de parole. Et quand nous donnons notre parole envers Dieu, eh bien, que ça soit en conséquence. Quand nous disons oui à la parole de Dieu, oui à la volonté de Dieu, oui à l'amour de Dieu, et que cela se transmette, se traduise dans nos actes, dans nos engagements de tous les jours. Il faudrait que le oui que nous disons au Seigneur ne reste pas sur le bout des lèvres, comme on dit, mais que ce soit un oui qui s'est présente et qui se révèle dans nos actes de tous les jours. Alors ce oui-là devient consistant quand il fait de nous des artisans de paix. Quand le oui que nous donnons fait de nous des artisans et artisanes de justice. Quand ce oui-là fait de nous des semeurs d'amour. Quand ce oui-là fait de nous des personnes attentives aux plus petits. À ce moment-là, nous sommes en train de mettre en application la parole de Dieu. Donc vous et moi, nous sommes invités aujourd'hui à faire un sérieux examen de conscience pour voir si vraiment nous sommes cohérents, s'il y a une cohérence entre notre foi et notre existence. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui, en fait, les deux enfants sont invités à aller travailler dans la vigne. La question c'est quoi la vigne? Ce qu'il faudrait c'est que si d'abord nous acceptons d'y aller, il faudrait qu'on soit cohérent avec notre acceptation, pour, de sorte que quand on sort de l'entente, de la conversation avec Dieu, eh bien, que cette conversation-là se prolonge dans des actes concrets. Vous allez regarder aujourd'hui, par exemple, après cette messe, on dira « Allez dans la paix du Christ ». Et à chaque célébration, « Allez dans la paix du Christ ». Que ça veut dire? Avec ce que j'ai entendu aujourd'hui, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, avec ce que qui est venu m'habiter aujourd'hui, moi je ressors, je vais aller travailler dans la vigne de mon Père. Et c'est quoi la vigne de mon Père? Alors, Jean-Paul II, de dire, voyez-vous, la vigne de Dieu, c'est le monde entier, avec tous ses espaces, toutes ses nations. C'est ça, la vigne dans laquelle nous sommes appelés à travailler. Mais ce n'est pas tout, dit-il. Il y a aussi la vigne de notre petit monde, c'est-à-dire de notre cœur. Nous sommes appelés à travailler dans cette vigne-là, à sortir de notre orgueil, de notre égoïsme, à travailler dans notre cœur de sorte que nous ayons toujours de l'espace pour les autres, de sortir de l'individualisme. Alors, dit Jean-Paul II, si nous devenons meilleurs dans notre cœur, alors seulement le monde extérieur sera meilleur aussi. Il y a une corrélation entre notre petit monde et le monde en général. Quand je travaille pour faire de moi la meilleure version de moi-même, alors cette meilleure version-là va donner de l'espoir au monde d'aujourd'hui pour qu'il devienne meilleur. Quand je travaille sur mon attitude, mais mon caractère difficile, j'essaie de le transformer, cette transformation-là va apporter du positif dans le monde en général. Voyez-vous. Alors, c'est là que nous sommes appelés à faire travailler dans la vigne de notre Père. Mais maintenant, tu vas entendre aujourd'hui, nous disons, oui mais la foi, c'est quelque chose de strictement privé. Alors moi, je le vis en privé. La foi ne peut pas être privée. Regardez, aller travailler dans la vigne. Où est la vigne? La vigne est... Elle est ouverte. Elle est sous le soleil. C'est tout le monde qui voit les personnes qui travaillent dans la vigne. De sorte que notre foi, ce n'est pas un habit comme moi je porte les habits après la messe, je les enlève. Notre foi est inscrite dans notre cœur. De sorte que la foi fait partie de nous-mêmes. Ce que nous disons, ce que nous faisons doit être le reflet de nos convictions les plus profondes de notre foi. Donc il n'y a pas de privé. Alors de sorte que quand nous vivons dans notre vie, s'il faut prendre des décisions, même au travail, même n'importe où, quand il faut prendre des décisions, quand il faut avoir une attitude, il faut afficher une attitude, eh bien cette attitude, cette réflexion doit jaillir de nos convictions les plus profondes de notre foi. Alors notre foi ne doit pas rester au niveau des lèvres, au niveau de la spéculation, mais la foi doit se dire dans les actes, doit se montrer dans les actes, dans les choses concrètes. Voyez-vous, c'est ainsi que partout où je suis, il faudrait que je pose des gestes qui montrent que je respecte la dignité humaine. Partout où je suis, je pose des gestes pour montrer que je suis ouvert aux plus petits. Partout où je suis, je reste cohérent avec moi-même et je mets Dieu en premier, en tout. Ça fait partie de notre vie. On ne peut pas détacher la foi de ce que nous sommes. Alors, c'est ainsi que nous allons demander cette grâce-là, d'être comme le Seigneur Jésus, qui a été oui durant toute sa vie. Pas de tergiversation dans notre manière de vivre, dans notre manière de vivre la foi. Voyez-vous, c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui pour que réellement nous devenions des personnes qui reflètent l'amour de Dieu partout où on est, sans se cacher, mais avec fierté. Même dans nos familles, dans certaines circonstances, nous n'avons pas honte d'être ce que nous sommes. Et même s'il faut le déclarer, nous le déclarons sans blesser, sans dire, nous disons ce que nous sommes. Et la foi ne s'impose pas. La foi n'est pas imposé avec des coups de massue. La foi se propose et la foi se vit. J'aime beaucoup cet exemple de Saint François d'Assise, je voudrais dire, et dont la fête est le 4 octobre. Alors François d'Assise, quand il avait commencé le groupe des franciscains en ses débuts, à un moment donné, on raconte qu'il avait eu tellement de succès, et puis c'était un mélange, hein. Il y avait des membres qui venaient des familles riches, des familles pauvres, des familles des intellectuels, des familles des gens simples. C'était vraiment un mélange au début, les salésiens, les franciscains. Alors à un moment donné, un groupe de franciscains vont voir François et dit: François, écoute, nous venons à peine de commencer, si nous voulons être solides, mais il faudrait que certains d'entre nous aillent à l'université.
qu'ils apprennent, qu'ils aient leur diplôme, et puis qu'ils sachent présenter la parole de Dieu, et puis comment évangéliser. Il faudrait des gens qui aillent à l'université. Il a dit, c'est bien, je n'ai pas de problème. On va choisir ceux qui veulent aller à l'université, qu'ils aillent, qu'ils apprennent, qu'ils reviennent avec leur diplôme universitaire, dans la Bible, dans différents autres champs. C'est ainsi que les gens sont partis. Et quand ils sont revenus, le premier jour, François a dit, c'est très bien, vous êtes revenus avec vos diplômes, avec les outils nécessaires pour enseigner. Mais je vous dis une chose, j'aimerais que vous enseigniez la Bible que vous avez appris à l'université, que vous l'enseigniez uniquement avec vos actes. Si c'est nécessaire, utilisez vos paroles. Mes amis, ça vous regarde, ça me regarde moi aussi. Notre foi, exprimons-le avec des actes. Si c'est nécessaire, disons quelque chose. Mais faisons-le avec notre existence. Alors que la prière de ce matin nous relève, nous rapproche davantage de Dieu, qu'il nous donne d'être des personnes cohérentes dans notre vie, des hommes des paroles, des femmes des paroles, quand il s'agit de la volonté de Dieu. Amen.